Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Griselle Disreal, écrivain, peintre et prostituée. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Nicole Sigal, réalisée par Michel Sidorov. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la fiction, nous vous racontons l'histoire, la vie et l'œuvre de Griselle Disreal, écrivain, peintre et prostituée, qui s'est faite aussi militante et amante, passionnelle. Une femme aux multiples facettes, construisant des passerelles entre une vie rêvée et la réalité, la recherche de l'amour et l'horreur des trottoirs. Tout commence à Lausanne, en 1929. C'est là, en Suisse, un pays calviniste, que naît celle qui deviendra la putain majestueuse. C'est ma mère, racontera-t-elle plus tard, qui a trouvé ce prénom Griselidis dans un poème de Charles Perrault. Un opéra d'ailleurs en était tiré. C'est l'histoire d'une bergère qui épouse un prince. Celui-ci la séquestre en haut d'une tour par peur qu'elle lui soit infidèle. Au septième gosse, il autorise tout de même à redescendre et elle peut enfin vivre sa vie de princesse. C'est vrai, confirme-t-elle, que ce prénom sorti d'un conte de fées n'est pas ordinaire. Et la femme, Griselle Disreal, n'est pas ordinaire non plus, ni pour ses amis, pour qui elle est une reine, une égérie, un mythe, ni pour les autres prostituées. Son œuvre littéraire est essentiellement composée de recueils de correspondances publiées chez Vertical, une œuvre unique qui fait de la prostitution l'objet même de sa création littéraire. « Clients et prostituées, nous sommes les victimes de la même injustice », dit-elle. Déclaration qui fait d'elle une militante. Griselidis s'engage dès 1975 quand éclate une révolte de prostituées contre la répression policière à Lyon puis à Paris. Elle rejoint le mouvement et ses sœurs damnées, comme elle dit, elle devient le principal visage de la lutte. Sur le problème de la prostitution, il se trouve que le mouvement féministe est partagé. Et comme l'explique le sociologue Lilian Mathieu, à travers cette question, vaut-il mieux lutter contre une institution patriarcale foncièrement oppressive pour les femmes ou aider les prostituées à exercer leur métier dans de bonnes conditions en acceptant l'idée que la libre disposition de son corps autorise à en faire un usage mercantile ? Aujourd'hui, même si le délit de racolage passif voté en 2003 n'existe plus, 70 ans après la loi de 1946 sur la fermeture des maisons closes, un pas supplémentaire vers l'abolitionnisme a été franchi avec la loi sur la pénalisation des clients. Ce débat est toujours d'actualité. Nous l'aborderons en deuxième partie d'émission, après la fiction, avec notre invité Thierry Schaffhauser, porte-parole du STRAS, le syndicat du travail sexuel. Il anime par ailleurs le blog intitulé « Ma lumière rouge » sur le site internet du journal Libération. Quant au texte de Griselle Disreal, un petit clin d'œil, ils sont adaptés et joués au théâtre en 2014. C'est Judith Magre qui interprète le rôle de Griselle Dis aux Abbesses et c'est elle que vous retrouverez dans la fiction tout à l'heure.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
Griselle Disreal, écrivain, peintre et prostituée, de Nicole Sigal. Une réalisation de Michel Sidorov.
Plus tard.
Plus tard, je veux être libre.
Libre de quoi ?
De tout. Je veux flamber.
Ça veut dire quoi ?
Je veux être une reine, faire tout ce que je veux. Même être brûlée comme Jeanne d'Arc.
Tu fais ta fière parce que ton père était directeur d'école.
Laisse mon père tranquille. Dis pas du mal des morts. Je ne le reverrai jamais. Le bon Dieu et son paradis, c'est des conneries.
Je vais dire à ta mère que tu dis des grands mots.
Je m'en fiche, elle est au courant. Elle dit que les filles doivent avoir des manières et un mari. Moi, je veux ni l'un ni l'autre. Oh, quel pot de colle, celui-là !
Je t'ai vue l'autre jour derrière la colline.
T'es jalouse ?
Les garçons, ça te perdra.
Plus tard, je vais être belle. Je vais tous les éblouir.
À part ça, tu veux faire quoi comme métier ?
Arrête, Julien, t'es collant à force. Je veux être artiste.
C'est pas un métier ?
Peindre, dessiner, écrire, c'est des métiers ?
Tu te crois parce que tu t'appelles Griselle Dis ?
C'est un prénom de Zigane. Je serai artiste et bohémienne. Je vivrai dans une roulotte.
N'importe quoi. Allez, viens, ça sonne. On va encore avoir un zéro à cause de toi.
J'ai rendez-vous à Genève avec une des femmes les plus extraordinaires que j'ai rencontrées. Elle se prénomme Griselle Dis, comme la petite princesse d'un des contes de Perrault. Nous étions inséparables depuis la petite école à Lausanne jusqu'à la sortie des Arts Déco de Zurich. Je l'ai retrouvée en 1975 à Paris, lorsqu'elle occupait avec 500 autres femmes la chapelle Saint-Bernard à Montparnasse. J'avais bifurqué dans mes études, je faisais mon mémoire sur la prostitution. Elle était l'une des leaders mondiales de la révolution des prostituées. Elle réclamait la reconnaissance de leurs droits de travailleuses. Griselidis tient à ce que sur ses documents officiels figure non seulement la profession d'écrivain, la putain la plus douée de la littérature européenne, dira le magazine littéraire en 2011, mais aussi péripatéticienne, qu'elle considère comme une deuxième profession. Presque 15 ans se sont écoulés depuis cette occupation. Je suis devenue psychanalyste et j'ai ouvert mon cabinet à Paris. Elle a 60 ans et continue à exercer librement la prostitution dans son petit studio de travail du quartier populaire des Pâquistes à Genève, où je la retrouve avec beaucoup d'émotion. Une Griselidis rayonnante de vie et d'humanité.
La danse, c'est comme l'orgasme, le soleil de la vie. Ah, mon sang de cigane s'est mis à bouillonner parfois. J'ai même vécu dans une roulotte avec mes enfants. Bohémiens, fils et fils de pute. Ça les a pas empêchés de faire des études et de devenir artistes. Avec une mère qui leur donnait un franc chaque fois qu'ils rapportaient un zéro ou qui crachait devant le palais de justice.
De toute façon, on ne peut être que de mauvais parents, comme dit Freud. Alors autant leur donner le goût de la liberté. Je pense souvent à toi quand je reçois mes patients. J'allais dire mes clients. Je les soulage aussi de leur souffrance, de leur solitude. Je me fais payer aussi en échange d'amour et d'empathie.
Oh, si les bons bourgeois névrosés que tu soignes t'entendaient.
Je n'ai pas l'intention de comparer la cure à la prostitution, ni même de la défendre. C'est toi et ta vitalité que j'admire, ta révolte, ton humour et ta pureté. D'ailleurs, le psy ne se place pas du point de vue de la morale, mais de celui de l'inconscient, qui n'en a pas, lui, de morale. Qu'on soit catho, protestant ou révolutionnaire, on a des pulsions qui se fichent pas mal de la morale.
Figure-toi que j'ai mon certificat de bonne mœur délivré par ces calvinistes de bourgeois genevois. Je peux exercer mon métier. Comme toi, j'ai des droits de travailleuse et je peux louer un studio de travail. Une belle revanche sur ces cuisses serrées. Ce qui n'empêche pas certains de venir s'épancher dans le mien. Oh, ils payent bien, eux, un billet froissé dans la poche du pantalon. Oh, tu vois, j'adore toujours danser. Et boire mes petits verres de Royal Cadir à 2 francs la bouteille. À présent.
À la vie, coûte que coûte. Tu es toujours aussi belle.
Pendant la révolution des prostituées, ça les rendait dingues, les féministes, qu'on soit belles, désirées par tous les hommes. Elles étaient jalouses, finalement, ces bourgeoises aigries qui s'endormaient au Mogadon pendant qu'on s'occupait de leur mari. Elles voulaient nous recycler en femmes honnêtes. Nous, les filles de joie, belles, maquillées, fées miroitantes et poétiques. Oh, ça jamais. Plutôt mendier, voler ou crever, même morte, je donnerais l'ordre qu'on vienne faire des passes sur ma tombe. En fait, ça y est, j'ai ma place réservée au cimetière des rois à Genève, à côté de Calvin et de l'écrivain Jorge Luis Borges. Que du beau monde! En tant que personnalité de la révolution des prostituées, t'imagines?
Et quelle personnalité! Reçue dans le monde entier. On te demande plus de conférences qu'à moi. C'en est où en ce moment?
C'est un peu retombé en France. Avec Sarko, on est retourné 15 ans en arrière. Les filles sont obligées de se cacher, sinon c'est l'hécatombe pour accolage passif. Du coup, elles reculent vers les bois, les abords des villes, des zones très dangereuses. T'as même plus le droit de stationner sur un trottoir en mini-jupe pour regarder passer les hommes. Mais qui s'occupe de ses fesses? Il en a une gratuitement à domicile, tout le monde n'a pas sa chance. Où ça va repartir? On me demande partout en ce moment, même à des congrès d'abolitionnistes et au Palais des Nations. Je dois faire un discours en 3 langues, allemand, italien, français. Plus mon prochain livre qui sort à Paris chez Vertical, moi, une horizontale.
À la reine des Pâquis, tu mérites bien. Quand tu me disais que tu voulais flamber, je comprends maintenant.
à la Révolution. Oh. Tu vois, on s'amuse bien au Pakis avec mes Kurdes, mes Turcs, mes Espagnols. Des hommes mystérieux, comme taillés dans la nuit à coups de hache. Un quartier mal famé, comme ils disent. On ne peut pas voir que c'est un quartier d'affamés. Le paradis des riches est fait de l'enfer des pauvres. Danser, danser sa folie pour la saisir à la gorge et la faire plier et dire merde au monde entier. En éclatant de rire. Oh, excuse-moi, j'ai un bourrage papier. J'ai installé ma photocopieuse sur le palier. C'est pas très langoureux comme musique pour les clients. Je me ruine pour la Révolution en photocopie que j'envoie dans le monde entier.
Quand tu as commencé à te prostituer en Allemagne, avoue que ce n'était pas vraiment la liberté.
Ah, ça non. Je me suis retrouvée en taule pour avoir vendu de la marijuana à mes clients, des soldats américains. Je passais mes journées à dessiner dans ma cellule. En sortant, j'ai recommencé à me prostituer pour nourrir mes enfants. J'étais clandestine, sans papier, sans protection sociale. C'est là que j'ai gambergé sur les droits des prostituées. Puisque les bourgeois viennent nous voir, je vois pas pourquoi nous ne serions pas reconnus comme travailleuses du sexe par leur gouvernement bourgeois. Je défends pas la prostitution. Je défends les prostituées. Pour que nous ne soyons pas aux mains de souteneurs et de filières mafieuses, où les filles travaillent dans des conditions d'abattage esclavagistes. Je n'aurais pas assez d'une vie pour classer toutes ces archives sur la prostitution. Prostituée documentaliste, ça occupera ma retraite. Mais oui, Gypsy King. Mais oui, moi, Gypsy King, je t'aime plus que ma photocopieuse. Mais après mes enfants. Ah, il en perd pas une miette quand je reçois mes clients. Il est pas bon, mon Royal Cadir? Cadeau d'un client que j'ai fait ce matin. Un pauvre, mais généreux. Il est venu frapper à 10h avec sa bouteille de vin tunisien. Je n'étais pas maquillée, mais bon, j'ai ouvert, il est gentil et rapide. Il faut bien que je paye toutes ces photocopies. Je préfère les clients aux photocopies. J'en suis à ma 5e photocopieuse. Elle chauffe. Je donne tout pour la Révolution, tout l'argent de mes clients y passe, pour qu'on ait droit à la sécurité sociale et à une retraite. Nous aussi. Le plus vieux métier du monde. Alors, un peu de respect. Il y a des messieurs du gouvernement qui viennent jusqu'ici.
En thérapie, j'en ai plus d'un de bons messieurs qui vont chez les prostituées. Un patient m'a avoué qu'il allait toujours en voir une en sortant de chez moi. Ça le détend.
Et pourquoi ils font pas ça avec leur femme?
C'est bien ça l'éternel problème. La maman ou la putain. Difficile de réunir les deux.
Pour ça, il faut aimer les hommes. Beaucoup, beaucoup les aimer pour les aimer. Comme dit Marguerite Duras. Il n'y a qu'une prostituée pour y arriver.
J'espère que non. Sinon, je ferme mon cabinet et j'ouvre une maison close.
On est au cœur du problème avec la prostitution. Résultat de 2000 ans de morale judéo-chrétienne. Chair égale péché. Défense d'avoir un corps. Interdit de jouir et de faire jouir. Je soupçonne le pape de posséder des actions dans les usines de tranquillisants, ceinture de chasteté nouveau modèle. J'ai même un client qui est venu, conseillé par sa femme. Il m'a envoyé des arts, 100 francs suisses pour la réservation. Là, je me sens vraiment utile.
Prostituer son âme n'est pas mieux. Ça se pratique beaucoup dans les milieux de pouvoir.
Je préfère prostituer mon cul. L'idée qu'on parle de qui il se réveille. Mon pauvre, mon gypsy, il est beau.
Grisely Disréal, un nom qui fait rêver. On était beaucoup de femmes et d'hommes à être fascinés par elle. Des actrices qui interprétaient ses textes, des étudiantes en sociologie, des journalistes, du psychanalyste. Elle était belle, cultivée, écrivain, artiste peintre aussi, et d'une franchise déconcertante, hardie. Se prostituer était un acte révolutionnaire qu'elle revendiquait avec une candeur joyeuse, tout en reconnaissant la part terrible d'autodestruction qui l'habitait. Elle semblait avoir accès à l'âme des hommes plus qu'aucune autre. Elle était la prêtresse de leur corps. Elle avait besoin du regard des hommes, même des plus dangereux, et avait ce genre de folie dévastatrice qui confine au sublime. Un ange déchu qui exerçait son métier librement dans son petit studio submergé d'archives sur la prostitution, où trônait sa fameuse photocopieuse et son chien, Gypsy King.
Oui, c'est moi, Gypsy King, le chien de Griselidis. Moi, le petit con, comme elle m'appelle si tendrement. Enfin, on me donne la parole. Faut vous dire qu'il n'y a qu'un chien pour déclamer sa chienne de vie tragique. J'en ai souvent les yeux qui pleurent. Elle croit que c'est parce que je mange trop de sucre. Mais qui puis-je? Elle a deux passions après moi. Sa photocopieuse et ses clients. Cette femme extraordinaire, c'est le destin qui l'a mis sur mon chemin. J'étais hideux, couvert de puces, cacochyme et arthritique. Le regard fixe et la bave aux lèvres, je ne croyais plus en rien. Elle m'a sorti de ma déréliction et aimé sans façon, comme tous ces misérables clients. J'en ai un peu profité au début et fait pas mal de dégâts chez elle. Fallait que je m'exprime. Elle l'a bien compris, cette sainte femme. Elle m'en a pas voulu. Elle m'a tout de suite aimé. Et comme dit la chanson, sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Mais j'en bave, j'en vois de toutes les couleurs chez elle. Des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges. Elle se rend pas compte de ma sensibilité de chien. J'entends tout, même les notes les plus aiguës que vous n'entendez pas. Dans quel antre d'indignité, quel creuset de tous les vices, dans quelle niche de toutes les luxures suis-je tombé? Ce que j'ai vu, entendu, respiré, hein, moi qui suis tellement sensible aux odeurs, c'est indescriptible. Plus rien ne me choque aujourd'hui. Hélas, car on se fait à tout. Elle, sous des dehors romantico-intellectuels, quelle garce, quelle traînée, quel souillon. Il faut la voir à son âge, officier jour et nuit, nu, sans aucune pudeur, et avec des hommes différents auxquels elle demande de l'argent. Pour me nourrir, mais tout de même. Et elle les fait bander, éjaculer devant moi, sans aucune gêne. Pardonnez-moi cette crudité, mais on a pu confier ce monologue qu'à un chien. Aucun être humain n'aurait résisté à tant de misère. On frappe à la porte, le jour. La nuit, l'après-midi, on n'est jamais tranquille. Le téléphone sonne, la photocopieuse photocopie. Elle n'en peut plus, mais elle y va quand même aux asperges, comme on dit écologiquement. Ça m'étonnerait qu'elle soit bio, les asperges. Je lui ai interdit le trottoir. Quand nous sortons, c'est pour moi. Ah, c'est moi le maître ici, maintenant. Ce qui m'intéresse dans la vie, comme tout mâle qui se respecte, c'est manger, sortir, aboyer. Dormir et baiser. Bref. Hélas, cette existence de chien est pleine de frustration, car il faut obéir, sous peine de recevoir des coups de laisse en cuir. Je plains les hommes d'être comme nous, dépendants, livrés à ces mégères égoïstes, autoritaires, imbus d'elles-mêmes et de leur sexe. Et toujours à revendiquer un pouvoir auquel elles n'ont pas droit, ataviquement, par leur morphologie préhistorique. C'est la vérité criante et décomplexée qui m'oblige à faire cet aveu. Mais malgré tout, je l'aime. Je ne peux me passer d'elle. Je mourrai pour elle.
Ça y est, Gypsy, t'as fini ton monologue. Tu vas nous faire arriver en retard au théâtre. Je suis désolée, tu restes ici. Je t'aime, mon chien.
Seule maîtresse à bord de mon corps. Et la nuit toute entière, et ma cuirasse cloutée d'or. Quand m'abordent dans l'ombre ces vieux sorciers impuissants, je fouille dans leurs entrailles, je tends leurs muscles, j'aiguise leur souffle, je fais jaillir de toute la force de leur désir cette rosée nacrée de leurs tiges de chair. Suis-je absente? Suis-je présente? Ma liberté m'éclate dans les doigts comme une lourde grenade pleine de fric. Homme! 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 Celle que vous payez, c'est mon double. Mon identité secrète est enfouie si profond que vous ne la trouverez pas. Je vous glisse entre les mains comme un fruit de glace brûlante. Le sexe est un organe magique. Dans votre civilisation de refoulés, on en a fait une maladie. Bande de tarés, vous ne voyez donc pas que vous vous perdez à force de vous priver? Ces vertueux chrétiens, au cul stérilisé dans de l'eau bénite, me dégoûtent. Qu'on nous honore et qu'on nous respecte comme dans l'Antiquité, où les poètes nous ont chanté et célébré comme des reines.
Du théâtre. T'as bien fait de venir à Genève. Tu m'as vu plus loin que nature. Je connaissais pas cette comédienne. Elle est exceptionnelle, hein, pour arriver à m'incarner à ce point.
Elle a une nature incroyable. Elle est très connue en France, Judith Magre. Tes textes sont très beaux.
Tu crois? Je réfléchis pas, ça sort en hémorragie.
Beau et criant de vérité.
Je triche pas, je sais pas tricher.
Judith est époustouflante dans cette insolence candide. La tienne?
Je sais pas ce qu'elles ont toutes ces comédiennes à vouloir me jouer. Ça attire. Elles approuvent une fois de plus qu'avec la prostitution, on est au cœur de l'humanité.
Beaucoup de femmes ont des fantasmes de prostitution.
C'est une façon de chercher l'amour. Toutes les prostituées cherchent l'amour. Moi, j'ai pas le temps de fantasmer, la révolution me prend tout. Ah, voilà la star. Bravo, Judith. Judith, Aline, psychanalyste.
Bravo. Impressionnant de vérité et de grâce.
J'avais un trac fou de savoir que vous étiez dans la salle Griselidis. Je n'en faisais pas trop.
Non, j'y vais fort, moi aussi. Je suis très émue par votre interprétation.
Ce sont vos textes qui sont émouvants. J'aime bien le passage sur les contradictions dans la prostitution. À la fois un défi, une autodestruction, car on s'use, on se morcelle terriblement, et une tentative d'échange et de reconstruction des rapports humains.
Ces hommes ne font pas que payer et éjaculer. Ils existent. Ils vous parlent, ils sourient, ils remercient, ils reviennent, ils sont là. Ah, ça, c'est sûr. Je connais l'humanité comme je l'aurais jamais connue dans les bouquins. Les travaux pratiques, il n'y a que ça de vrai, comme je disais aux féministes pendant la révolution de 75. Réclamer, nous sommes toutes des prostituées. Mon œil, qu'elles s'allongent pour voir.
Vous leur en voulez beaucoup à ces féministes.
Oh, que oui! Des briseuses de révolution qui auraient mieux fait de s'occuper de leurs fesses. Bon, faut que je vous laisse, les filles. J'ai une interview. Une étudiante en sociaux. Je fais ça pour la cause. Encore bravo, Judith. À demain, Aline, pour ta conférence. Après, je file chez les moines.
Chez les moines?
Il t'a relancé?
Oui, il a retéléphoné ce matin. Il paraît que c'est impossible qu'il sorte du monastère, mais il en a parlé au père supérieur, qui est d'accord pour que je vienne.
C'est un canular.
Non, je crois pas. Je pense qu'ils en ont marre de se masturber devant les statues de la Vierge.
C'est énorme. J'arrive pas à y croire.
Moi non plus. J'ai dit de m'écrire une petite lettre pour confirmer. Ça va me faire une aventure délirante, complètement surréaliste. N'en parle pas. Faut pas la faire rater.
Et tu vas t'habiller comment? En prostituée?
Non, je vais faire un effort vestimentaire. Je vais mettre un petit Spencer qu'on m'a donné. Très masculin, ça va leur plaire. La question, c'est, est-ce que je mets quelque chose en dessous?
Incroyable! Tu nous raconteras!
Petit toit blanche, quand j'ai commencé mon mémoire sur la prostitution, j'ai tout de suite été impressionnée par cette grande prêtresse des bas-fonds. Je l'ai toujours vue se battre pour être une putain très respectueuse et respectée. Il y avait chez elle quelque chose de l'utopisme de Fourier pour qui la prostitution était le rut en alliance avec la charité religieuse et pour qui la vérité n'existait qu'avec les courtisanes, dans ces lieux de l'extrême qu'étaient les maisons closes au XIXe siècle.
Tu vas être sage, Gypsy. On va se mettre un peu de jazz. Billie Holiday, ça te va? Mes bougies parfumées. Ma lanterne rouge. Ambiance, tendresse, sensuelle. J'entends, mon Gypsy. Tu ne me fais pas tes aboiements de jalousie. Il n'y a pas de quoi avec lui. Il veut juste que je l'embrasse pendant une heure. Bon, je sais, c'est long, mais il sent bon. Et c'est pas fatigant. Il y en a pour tous les goûts ici, faut y faire. Bon, tu veux un petit câlin, toi aussi. Tu deviens aussi exigeant que les clients. Et en plus, c'est gratuit. Oui, t'es mon Gypsy, chérie. Ça fait du bien de se retrouver. En attendant, mon jeune homme, sois pas jaloux. Tu sais, c'est le genre de gamin à qui tu dis « Tu viens, chérie, pour le désinhiber. » Et on se fait embarquer pour un racolage. C'est pas du racolage. C'est de l'humanisme pur. C'est tout simplement nécessaire de l'encourager de la voix et du regard pour qu'il ne reste pas fou de solitude et d'inhibition. Ça fait 15 ans, mon Gypsy, qu'on le hurle dans le désert et que les flics continuent à distribuer en France des PV à 1500 francs pour incitation à la débauche, racolage passif. J'en ai des doubles ici. Dévisager les passants avec insistance, en déambulant sur le trottoir, vêtu d'un short très court en plein hiver. Des milliards dans les caisses de l'État français. Et les caissiers sont pas les derniers à venir. Tu comprends quelque chose? Les hommes qui décident de ce qu'on doit faire de notre corps sont les premiers à venir nous voir. Quelle hypocrisie! Ça y est, je vais encore m'énerver. Wow! Oui, mon Gypsy. T'aimes pas me voir dans cet état. Hop, chut, tais-toi, on frappe.
Griselie d'Israël n'a pas eu le temps de connaître les nouveaux décrets en France sur la pénalisation du client. Ça l'aurait fait hurler d'indignation, elle qui considérait la prostitution comme une révolte, un acte bienfaiteur. La prostitution, pour moi, était une manière d'être aimée et reconnue par des hommes, écrira-t-elle. La prostitution, comme l'écriture, au fond, sont nées pour elle du regard des hommes. Elle ne vivait que par les hommes, dira le journaliste Jean-Luc Hénic, à qui elle a écrit une lettre par jour pendant 15 ans, jusqu'à la veille de sa mort, le 31 mai 2005. Elle avait 76 ans et avait pris sa retraite de travailleuse du sexe à 63 ans. Jusqu'au bout, plus irrésistible que jamais et drôle malgré les souffrances engendrées par un cancer ravageur, elle conservera son franc-parler, son goût pour les hommes de la rue et sa capacité d'émerveillement.
C'était Griselie d'Israël, écrivain, peintre et prostituée, de Nicole Sigal. Avec Anne Canovas, Griselidis. Nicole Sigal, la psychanalyste. Judith Magre, dans son propre rôle. Jean-Marie Gallet, le chien Gypsy King. Pauline Ziadé, Griselidis enfant. Christelle Reboul, son amie de collège. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Jean-Michel Bernot, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Michel Sidoroff.
Déjanté sur ton corps animal, dans cette chambre où les nuits durent pas plus d'un quart d'heure, juste après le péage, assurer l'extraval et remettre à zéro l'aiguille sur le compteur. Ton blues a dérapé sur mon corps de chacal, dans cet hôtel paumé au milieu. Et je suis comme un cobaye qui a sniffé toute sa paille. Mon armure dans un geste un peu lourd, en me disant reviens maintenant je te connais. Tu me rappelles mes amants du Barré à Hambourg, quand j'étais l'orpheline aux yeux de feu follet. Tu me rappelles mes amants perdus dans la tempête, avec le cœur naufrage au bout des bars de nuit. Et tu me dis reviens, je suis ton jour de fête, reviens jouir mon amour dans ma douche agonie.
Vous savez, quand j'étais petite, ma mère nous a fait des confidences sur sa vie amoureuse. Elle nous a dit, voilà, avant d'être vraiment heureuse avec votre père, moi j'ai un peu erré comme jeune fille, j'allais d'un amant à l'autre, je ne trouvais pas mon bonheur, j'étais bloquée quelque part. Alors ça faisait scandale à l'époque, évidemment. Hein. Alors ma mère s'était fait traiter par des vieilles rombières très bourgeoises de putain, mais la malheureuse, elle faisait l'amour, mais elle se faisait pas payer, c'était pour tâcher de trouver le bonheur. Elle avait changé de temps en temps d'amant. Alors moi, je me suis dit qu'un jour, je vengerais ma mère, puisqu'on l'avait traitée de putain quand elle ne l'avait jamais été. Eh bien, moi, je le serais pour de vrai, et je triompherais justement de ce vocabulaire méprisant, et le mot putain deviendrait un titre de gloire. C'est ça que je voulais, moi. J'ai vengé ma mère, et j'ai vengé toutes les putains du monde, et je ne suis pas la seule.
Il faut démystifier les choses jusqu'à la racine. Pourquoi la prostitution existe-t-elle? Eh bien, c'est que la sexualité ne marche pas comme sur des roulettes pour tout le monde. Et c'est une chose qui est évidente et qui ne date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors moi, j'ai beaucoup parlé avec mes clients. Je leur disais, mais enfin, pourquoi tu viens chez moi? Tu as un problème, il y a quelque chose qui ne joue pas dans ton couple, ou alors tu es seule, pourquoi? Tu n'oses pas engager une relation avec une femme? J'ai eu, moi, des hommes extraordinaires, cultivés d'ailleurs, qui devenaient des amis, qui m'étaient envoyés par des sexologues et des psychologues. Et j'essayais de comprendre pourquoi ces hommes étaient malheureux, pourquoi ils restaient confinés dans leur solitude et pourquoi leur sexualité était bloquée quelque part. Donc la prostitution doit aussi être un révélateur. Ça ne doit pas seulement être une solution de rechange. Il faut aller plus loin dans l'analyse, voyez-vous. Et je pense qu'un jour, peut-être, espérons-le, on n'en aura plus besoin. Mais ce n'est pas encore demain la veille.
France Inter, Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui Grésélidis Réal, écrivain, peintre et prostitué. Notre invité, Thierry Schaffhauser, travailleur du sexe. Bonjour Thierry Schaffhauser.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez rejoint le mouvement ACT UP à l'âge de 18 ans là, pour faire ses classes de militants. Il n'y a pas mieux, je dis ça parce que on a consacré à ACT UP une émission d'affaires sensibles. Récemment, c'était vraiment des combattants hein, d'une cause. Puis vous vous êtes engagé en politique avec les écologistes de Europe Écologie Les Verts. En parallèle, vous avez milité au sein du syndicat des travailleurs et des travailleuses du sexe, le STRAS, dont vous êtes encore porte-parole. Et vous tenez un blog sur le site internet du journal Libération, un blog intitulé « Ma lumière rouge ». Vous avez entendu la voix de Grésélidis Réal, alors au-delà du délicieux accent vaudois qu'elle porte, elle porte un discours aussi, et notamment dans ce discours, il y a cette phrase que j'ai relevée, « putain égale titre de gloire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça m'a vraiment ému parce que là j'ai découvert effectivement cet extrait-là que je connaissais pas, et ça m'a vraiment ému parce que ça correspond aussi à un vécu un peu personnel, puisque ma mère aussi a été traitée de pute quand elle était adolescente et qu'elle a osé réclamer la pilule à ma grand-mère. Et du coup, c'est vrai que quand elle m'avait raconté cette anecdote, maintenant que je suis travailleur du sexe, militant pour les droits des travailleurs et travailleuses du sexe, c'est vrai que je me dis peut-être que je le fais aussi en partie pour venger aussi ma mère d'une certaine manière. Et parce que finalement, cette stigmatisation, je pense qu'elle touche plus largement que notre communauté de travailleurs et travailleuses du sexe. Et oui, j'espère que un jour, quand les gens auront compris que les putains sont des personnes nobles, hein, peut-être que ce stigma aura disparu, je pense que ce sera bénéfique pour toute la société, puisque ce stigma touche toute la société, en fait.
Alors, au sein de cette communauté, je reprends le mot que vous employez pour les travailleurs et les travailleuses du sexe. Est-ce qu'on parle de Griselidis? Est-ce qu'elle est un modèle? Alors, vous parlez pas avec tout le monde, évidemment, mais est-ce que, au détour de certaines conversations, vous avez pu mesurer ce qu'elle représente?
Je sais pas si c'est un modèle pour tout le monde. En tout cas, c'est évident que elle a, elle a une influence énorme sur le mouvement, parce que, en 1975, c'est l'année où ça commence un peu, hein, avec l'occupation des églises à Saint-Nizier à Lyon, et puis la chapelle Saint-Bernard à Paris. Enfin, dans plein de villes de France, il y a un phénomène d'occupation des églises. Griselidis Israël y participe et elle devient une des leaders à ce moment-là. Et je pense que c'est un peu une pionnière, c'est-à-dire que quand on dit que l'histoire commence au moment de la naissance de l'écriture. Avant 75, il y avait quelques témoignages, mais il n'y avait pas vraiment une production de théorie, une production d'analyse sur qu'est-ce que c'est que notre oppression, et une parole là via l'écriture. Et je pense qu'elle a vraiment contribué à un discours à la première personne sur qu'est-ce que c'est que d'être travailleur du sexe, qu'est-ce que c'est que ce qu'on vit. Il y a des livres où elle raconte les clients, elle raconte vraiment même l'intimité de ce que peut être le travail sexuel, en tout cas au moins de son point de vue à elle. Et je pense que ça a apporté aussi une... Tout d'un coup, les gens ont pu découvrir aussi, grâce à ses écrits, cette intimité-là qu'ils fantasmaient ou que...
Et qui est souvent représentée dans la littérature ou dans les témoignages comme une expérience traumatisante, toujours noire, celle des prostituées. Alors bien sûr qu'il y a cet aspect très difficile sur lequel on reviendra. Puis il y a un autre aspect qui est celui d'un, je dis métier.
Je dis métier comme un travail.
D'accord. Bon, et il y a cet aspect-là, alors que lui qui est pas toujours noir, est-ce qu'elle a contribué à ce que l'image qu'on se fait de la prostitution soit plus juste, soit plus réelle?
Je pense que pour qu'on arrive à cette justesse, il faut qu'il y ait une diversité des prises de parole.
Oui.
Donc je pense que elle a contribué à de nouvelles paroles, et je pense qu'elle a aidé les personnes après elle aussi à prendre la parole publiquement, et je pense que je me pense aussi comme un héritier aussi de son travail. Maintenant, je pense que c'est pas forcément que Griselidis. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, avec Internet, on a quand même plein de blogs, on a quand même sur les réseaux sociaux de plus en plus des travailleurs et travailleuses sexe qui s'expriment.
Alors, des témoignages.
Grâce à l'anonymat d'Internet, je pense que les gens peut-être commencent aussi à découvrir un peu plus aussi qui nous sommes. Et j'espère que ça va continuer en progressant, parce que je crois beaucoup à la stratégie du coming out et de la visibilité pour faire avancer nos luttes, comme dans d'autres luttes. Hein. Je pense que s'il y a une association à Toulouse qui s'appelle Griselidis, c'est bien qu'elle reste une référence aussi pour beaucoup de personnes. Je pensais pas la seule, mais c'est vrai que dans le monde francophone, en tout cas, c'est une des premières à avoir été aussi visible, et du coup qui a une grande importance, quoi.
Et qui en plus qui écrit bien, donc ça,
tout à fait, oui.
Ça compte, parce que c'est aussi une écrivaine. Dans les années 75 et 80, vous parliez du mouvement des prostituées à Lyon d'abord et puis à Paris. C'est concomitant du mouvement féministe. Mm-hmm. Et il y avait parfois et même souvent un conflit. Alors on va parler des travailleuses du sexe. Que pensez-vous du propos tenu par le sociologue Lilian Mathieu, et que j'ai rappelé dans l'introduction de cette émission, et qui dit: vaut-il mieux lutter contre une institution patriarcale foncièrement oppressive pour les femmes, ou aider les prostituées à exercer leur métier dans de bonnes conditions, en acceptant l'idée, la phrase clé elle est là, hein, en acceptant l'idée que la libre disposition de son corps autorise à en faire un usage mercantile, car les féministes disaient prostitution égale marchandisation du corps et esclavagisme, lui dit c'est libre disposition de son corps. C'est... Dans quel camp vous...
Non, mais moi je pense qu'on peut faire les deux en fait. Hein. Ah. Je pense qu'on n'est pas obligé de d'opposer. Enfin, moi je pense que la lutte des travailleurs du sexe c'est une lutte fondamentalement féministe. Alors évidemment, bon, ça fait débat évidemment. Non, mais moi je pense que on peut très bien reconnaître que oui, la prostitution comme le mariage ou comme d'autres institutions qui encadrent les échanges économico-sexuels, hein, pour reprendre l'expression de l'anthropologue Paola Tabet. Oui, c'est une institution patriarcale, mais ça n'empêche pas de aussi d'être pragmatique par rapport au vécu des personnes. Et je veux dire, il y a une stratégie féministe par rapport au mariage qui a pas été, alors il y en a certains qui revendiquent l'abolition du mariage, mais qui a été aussi d'arriver à l'égalité au sein de l'institution du mariage. Ça a pris beaucoup de temps et je pense qu'il y a encore des évolutions possibles. Il y a encore eu le mariage pour tous récemment, donc ça montre bien que cette institution aussi, elle évolue. Moi, je crois qu'on peut aussi faire évoluer l'industrie du sexe de l'intérieur. Enfin, en tout cas, c'est notre lutte syndicale. Hein. C'est aussi de lutter contre les abus, l'exploitation, les violences, etc. qui existent dans l'industrie. À terme, est-ce que on peut envisager une société sans travail sexuel? Pourquoi pas, hein. Moi, j'ai pas forcément d'opposition. On peut débattre idéologiquement de la question. Mais par contre, au niveau des solutions à apporter, pour moi, ce qui est évident, c'est que les solutions policières et carcérales ne fonctionnent pas. Et que non seulement elles fonctionnent pas, mais qu'elles empirent le problème parce qu'elles génèrent davantage de précarité, davantage de violence, d'exploitation, etc. quoi.
Thierry Schaffhauser, on va se retrouver dans quelques minutes. On parlera aussi de la condition des travailleurs du sexe. On parlait de la condition des travailleuses. On va continuer parce que le débat n'est pas terminé, mais on parlera aussi des travailleurs du sexe. Et puisque vous êtes là, on
D'accord, profitera. Très bien.
Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear the dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, 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 no. You don't have to put on the red light. Loved you since in New York. He wouldn't talk down to ya. He has to tell you just how it feels. He won't share you with another boy. He knows his mind is made up. So put away your makeup. Told you once, he won't tell you again. It's a crime, the way. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. To put on the red light. Roxanne, 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 you don't have to put on the red light. Put on the red light. Put on the red light.
Thierry Schaffhauser, je reviens avec vous sur la présentation de ce qu'est la prostitution, le travail du sexe ou le travail sexuel, hein, qui est une un métier. Alors évidemment, les féministes disaient, oui, ce que dit Griselidis, oui, c'est intéressant, mais enfin, la prostitution, elle est contrainte. C'est-à-dire que l'expérience de Griselidis n'est pas forcément l'expérience de toutes les prostituées. Et que ça pouvait créer, dans l'esprit des féministes, un effet de loupe, si vous voulez, un effet de loupe qui serait trop positif par rapport à ce qu'est la réalité. Est-ce qu'il y a un décalage entre ce qu'elle raconte et la réalité ?
Déjà, moi, j'ai pas l'impression que sa parole, elle soit si positive que ça, parce que je pense qu'elle décrit aussi des choses qui sont très violentes,
oui, bien
des
sûr.
Agressions, enfin, voilà. Je pense qu'après, moi, le souci que j'ai avec ça, c'est qu'on a tendance vraiment à nous enfermer dans des représentations très caricaturales et qui seraient binaires, c'est-à-dire qu'il y aurait que la victime par essence. Soit on va parler de la traite, d'addiction, de plein de problèmes, ou alors il y aurait la personne qui serait dans une liberté de choix, machin, etc. On est un peu prisonnier de ces symboles-là, et je pense que c'est aussi des symboles qui sont liés à notre histoire culturelle et religieuse. Moi, je vois le mythe de Marie-Madeleine vraiment derrière l'idée de la femme qui a péché, qui a pardonné ses péchés à condition qu'elle se repent et donc qu'on la reconnaisse comme une victime. Et puis à côté de ça, celle qui revendique la prostitution, bon bah elle, du coup, c'est la mauvaise femme qui s'est toujours pas repentie. Et donc il y a le côté, bon, c'est une salope parce qu'elle aime son travail. Mais tout ça, c'est des représentations. Dans la réalité, oui, il y a plein de vécus différents et y compris. Quand on parle des victimes, par exemple, je pense qu'il n'y a pas une victime. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes différents. Et en plus, c'est en fonction de parcours. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir, je sais pas, un problème de contrainte économique au début quand on commence l'activité. Et puis après, on s'en sort mieux. Et puis après, peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un qui va abuser de la situation. Enfin, ouais. Les choses sont pas aussi manichéennes, quoi. Enfin,
Sauf que en France, environ 30 000 personnes se prostituent et sont à 83% étrangères, des clandestines, des sans-papiers, donc qui sont sous toutes les menaces des mafias, mais menaces de la police aussi, puisqu'elles sont sans-papiers. Oui, il n'y a peut-être pas un hasard s'il y a une telle proportion de femmes perdues qui se retrouvent dans la prostitution, et peut-être qu'il y a là un rapport étroit.
Bon, alors déjà, je pense qu'au niveau des chiffres, il faut être quand même très prudent parce que la plupart des chiffres n'ont aucune base scientifique. Hein, c'est-à-dire que ce sont des chiffres qui sont issus de la répression policière, donc du travail policier, qui a pour objectif principalement de lutter contre l'immigration clandestine et contre le trouble à l'ordre public, etc. Donc du coup, évidemment, ça, on va rendre visible des personnes qui
effet de loupe, tiens,
qui
encore.
Voilà, encore un, oui, effectivement, un effet de loupe. Moi, je sais pas, enfin, je pense que la question, c'est la question des conditions de travail. Après, on pourra toujours débattre de est-ce que telle ou telle personne est représentative ou pas. Je pense qu'à un moment donné, on va arrêter de perdre notre temps, quoi, dans ce débat sans fin. Surtout qu'on le fait pas nécessairement de la même manière pour d'autres mouvements sociaux, ou je sais pas, je pense que les autres syndicats, je sais qu'on les attaque souvent aussi sur leur représentativité. Mais au bout d'un moment, on finit par dire bon, ils sont quand même légitimes, en tout cas au sens où ils essayent de défendre les intérêts des travailleurs. Bon, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Effectivement, il y a pas mal de problèmes. La question du droit au séjour, c'est un problème très important. Malheureusement, il n'y a pas de réponse adaptée à ça, puisque au lieu de régulariser les personnes sans papier, ce qui serait une vraie solution en termes d'apporter plus de choix économiques aux collègues qui sont sans papier, on propose un parcours de sortie, par exemple, mais qui est pas en place. Et avec, dedans, la possibilité éventuellement d'avoir un titre de séjour de 6 mois, sauf que c'est à l'arbitraire des décisions des préfets. Donc, en fait, dans la pratique, bon, de toute façon, il n'est pas en place, donc pour l'instant, personne n'a de papier. Et il suffirait que ces gens-là, au pouvoir, régulariser sans papier, déjà, on avancerait énormément dans la lutte contre l'exploitation et la traite des êtres humains. Parce qu'en fait, les industries où il y a le plus de problèmes de travail forcé, c'est là où il y a des sans-papiers qui sont exploités. Ça n'a rien de spécifique, en fait, à l'industrie du sexe, ou à la demande des clients, comme ça a été présenté dans les arguments. C'est pas la demande des clients qui crée la traite des êtres humains. C'est le fait qu'il y a des personnes qui, effectivement, dans leur parcours migratoire, se retrouvent à un moment donné confrontées à des contraintes. Et en général, c'est plutôt sous l'angle de la tromperie par rapport aux conditions de travail. C'est-à-dire que souvent, dans les médias, il y a des représentations sur l'idée que les gens seraient enlevés, kidnappés, etc. De ce que nous, on observe en tout cas, c'est plutôt lié aux difficultés du parcours migratoire et au fait qu'à un moment donné, il y a des personnes qui vont tirer profit et abuser de la vulnérabilité des gens, quoi. Là, on attaque les clients, c'est on est en train d'empirer le problème.
Alors justement, j'allais y venir avec la loi sur le délit de racolage en 2003, puis la loi sur la pénalisation des clients. Est-ce que ceux qu'on appelle les abolitionnistes, qui voudraient abolir la prostitution, sont en train de gagner la partie là ?
Moi, je pense que la raison pour laquelle aussi on a eu cette pénalisation des clients, c'est une forme de réponse à l'émergence et au développement du mouvement des travailleurs et travailleuses du sexe. C'est-à-dire que je pense que le fait qu'il y ait notre parole qui essaye aussi de montrer, enfin, comment nous on perçoit les choses et aussi le fait qu'on casse un peu ces différents mythes, pour moi, je l'analyse comme une réponse au succès du mouvement des travailleurs du sexe en termes de visibilité et de prise de parole publique. Donc je ne pense pas qu'ils... Enfin, ils ont gagné une bataille, mais la guerre, c'est nous qui la gagnerons, parce que je pense que plus rien ne nous arrêtera maintenant. Nous, ce qu'on revendique, c'est l'accès au droit commun, ce qui inclut le droit du travail, le droit de s'associer et le droit de pouvoir travailler en intérieur, d'ouvrir des cabinets, par exemple, comme le font des avocats, des médecins, etc.
Ce qui est une grande hypocrisie, parce que des cabinets de massage qui sont en fait des cabinets, là pour le coup, de travailleuses du sexe, il en existe partout, et qui ne sont pas montrés comme ça.
Bah, donc, il y a aussi je pense même qu'il y en a un peu plus maintenant depuis la pénalisation des clients qui visent essentiellement le travail de rue. Et comme par exemple à Stockholm, il y a 3 fois plus de salons de massage clandestins depuis la pénalisation des clients en Suède.
Toute dernière chose, la condition des hommes dans le... Parce qu'on parle toujours de la condition des femmes dans le travail du sexe. Quelle est la condition des hommes dans le travail du sexe? Vous pouvez y répondre, puisque vous êtes directement concerné, mais pas que vous, puisque vous soutenez vos collègues.
Je pense qu'au niveau des hommes, c'est vrai qu'il y a peut-être des problèmes particuliers. Je pense par exemple à la prévalence VIH qui est beaucoup plus forte que chez les femmes. C'est quelque chose qui...
C'est-à-dire
que les femmes ont développé la santé communautaire dès la fin des années 80 ont été très fortes pour maintenir des taux de prévalence très très bas chez les femmes cisgenres. Par contre, les hommes gays ou les femmes trans, bon, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu dans la prévalence et donc on est beaucoup plus exposé et beaucoup plus vulnérable aux questions du VIH et des IST. Et je pense que peut-être qu'il y a aussi un besoin de déségmenter les différentes catégories pour prendre davantage cette question en compte. Après, il n'y a pas que cette question-là. Je pense que il y a beaucoup de jeunes gays, par exemple, qui ont un besoin d'être indépendants économiquement très tôt, qui du coup n'ont pas forcément la possibilité de faire des études, ce genre de choses. Et le travail sexuel représente aussi une opportunité économique pour quitter sa famille très jeune ou pour faire des études, enfin pour financer sa vie très jeune. Et donc la question de la précarité chez les jeunes hommes travailleurs du sexe, c'est aussi une question. Je pense que peut-être sur la question des violences, c'est vrai qu'on l'aborde souvent du point de vue féminin. Mmh. Et je pense que les hommes ont tendance à pas signaler les faits de violence parce que je pense qu'il y a une intériorisation du fait que, je sais pas, enfin, la culture masculine de pas parler d'être victime, quoi. Alors que c'est aussi un sujet important. Hein. Donc voilà, il y a plusieurs sujets qui touchent aussi les hommes, mais c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Oui.
Mais écoutez, on en aura parlé en tout cas.
Oui, cette merci. Fois,
ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Thierry Schaffhauser.
Je vous en prie.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Grésélie Disréal, écrivain, peintre et prostituée. Une fiction écrite par Nicole Sigal, réalisée par Michel Sidorov. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet, réalisée par Anne Niorot. Programmation musicale Muriel Perez. À la technique aujourd'hui, Élise Christophe.